Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out. Dans une seconde, je vous présente notre invité, mais avant, ça fait tellement longtemps que je rêve de vous dire ça. J'ai quelque chose à vous dire, parce que je lance un nouveau podcast. C'est grâce à vous, alors à cause de vous, vous choisissez. Vous m'avez tellement donné de bonheur et de plaisir à faire Sold Out depuis presque 5 ans que ça fait quelques années même que je bosse sur un projet parallèle, un nouveau podcast. Ça s'appelle One. C'est un podcast cette fois qui va partir à la rencontre des artistes et du lien qu'ils ont avec un instrument de musique particulier, leur instrument fétiche, leur doudou si vous voulez. J'ai remarqué que parfois un artiste a un instrument particulier qui l'aide à créer, qui le rassure. Et c'est une enquête, on va toujours aller rencontrer aussi des gens qui sont dans l'ombre, les managers des artistes, les luthiers, les gens qui font le son, leur famille. Ça va être une toute autre aventure. Ce podcast, il sort le mardi 23 avril, il s'appelle One. On va partir dans un sold-out normal dans une seconde, mais je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Je vous ferai écouter la bande-annonce de One, si vous êtes encore avec nous, d'accord, à la toute fin de cet épisode, dans une grosse demi-heure. Mais pour l'instant, je vous présente notre invité, c'est Olivier Toitil, patron de Zouave. Salut Olivier, on est où aujourd'hui ?
Eh bien, on est dans un studio, une cabine de studio qu'on a fait ici, dans le label Tôt ou Tard.
Ah ouais, c'est un des premiers trucs qu'on enregistre dans ce studio, où il y a un silence parfait autour de nous.
Exactement.
On a de la chance.
Tôt ou tard aménagé dans ce studio, dans ces nouveaux locaux la semaine dernière. Et donc, au sein de ces locaux, Vincent Frérebois a eu la bonne idée de faire une cabine d'enregistrement.
Alors, j'ai rebondi là-dessus, justement, parce que pour les auditeurs fidèles de Sold Out, vous connaissez déjà Vincent Frérebois, parce qu'on a enregistré Vincent dans la deuxième ou troisième saison, on était en public au MAMA, et on a fait un bel épisode avec Vincent Frérebois, qui a parlé beaucoup de l'aventure Tôt ou Tard, de ce label et de l'histoire. Et il se trouve que Tôt ou Tard s'est diversifié il y a une quinzaine d'années en lançant une boîte de production, de spectacle, et c'est tout l'objet de Sold Out. Et cette boîte, c'est toi qui la dirige, Olivier, aujourd'hui.
Exactement. Zouave va fêter ses 15 ans cette année. Boîte de tournée, de chansons, de pop, de folk, plein de styles différents, on ne s'interdit rien. Et donc, on produit environ 25 artistes.
Tu peux nous en donner quelques-uns ? Évidemment, ce ne sera pas exhaustif.
Non,
pardon pour ceux qu'on oublie. Mais voilà.
J'en oublie à chaque fois. Albin de la Simone, Vincent Delerme, Mentissa pour des formats plus chansons, on fait aussi Chaka Ponk, on fait aussi Vianney, Shirley Winston, Emma Peters et Alyosha Schneider et plein d'autres.
Et plein d'autres. On va parler de tous ces artistes, on va parler des 15 premières années de Zouave, de ton parcours et de la suite, les 15 prochaines années, dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant.
Est-ce que tout est prêt ?
Oui, monsieur le directeur.
Bon, alors je vais faire commencer.
On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par des professionnels du spectacle vivant.
Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier.
On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus.
On parle d'humain, non ?
Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein ?
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Je suis Olivier Toitil, directeur de la société de production Zouave.
Premier billet vendu.
Premier billet vendu, en tout cas, dès lors du moment où j'ai commencé vraiment à travailler, c'était chez Olympique. Aujourd'hui, ça s'appelle Augury. J'ai commencé là-bas et mon premier billet vendu devait être un billet d'Alexis HK.
Et tout dernier billet vendu.
Tout dernier billet vendu, nous avons mis en vente le début de la tournée de la prochaine tournée de Emma Peters, donc à l'Olympia et en province à partir de la fin d'année.
Sold Out saison 5, épisode 22, avec Olivier Touati, directeur et encore un peu booker, je crois.
Un peu booker, effectivement, je fais toujours un peu de booking.
De Zouave Spectacle, enregistré dans les nouveaux bureaux de Tôt ou Tard, et de Zouave aussi, du coup, rue de la Folie Méricourt à Paris. Bon alors Olivier, déjà forcément je suis obligé de te demander pourquoi ça s'appelle Zouave, même si c'est pas de ta faute parce que t'es arrivé après, mais tu sais pas peut-être.
Marc, c'est la pire question.
Je sais, mais
c'est
comme ça c'est fait, pour commencer. C'est fait comme ça, tu vois.
C'est la pire question parce que je n'ai pas de réponse.
Je crois que personne en fait.
Personne n'a vraiment la réponse. En tout cas, c'était un choix donc antérieur à mon arrivée. Donc c'est Vincent Frérebois en créant la société. Je pense que pour lui, Zouave c'était l'amusement, le divertissement. Voilà, ça vient, je l'espère, de rien d'autre que cela, faire plaisir aux autres.
Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours un peu une légende, c'est pas vraiment.
C'est vrai.
On va laisser ça comme ça, d'accord. Bon, alors par contre, ce qui n'est pas une légende, c'est que toi, tu as une formation sérieuse au début. Un bac ES, une école de commerce, on est sur de la chemise bleue, du col blanc, des mocassins à glands, enfin voilà.
Mais j'étais un cancre, je ne sais comment j'ai fait tout ça, mais j'ai fait tout ça. Non, mais effectivement, bac éco, je me destinais plutôt à bosser dans les assurances ou dans la banque, tu vois. Mais musicien adolescent, j'ai été très vite amoureux de la chanson, du rap, de la musique d'une manière générale. Et dès la première année de mon école de commerce, je me suis dit, je ne peux pas, après mon premier stage à la Société Générale, je me suis dit, je ne peux pas faire ça toute ma vie, ça ne va pas être possible.
Ah, t'as quand même essayé de faire un stage
à la Société Générale. Non, j'ai fait un premier stage en première année. Donc après, j'ai fait une année de fac, puis une école de commerce. Et là, la première année, stage à la Société Générale, je me suis dit, il va falloir que je fasse autre chose. Et donc, j'ai proposé au directeur de l'école à mon époque d'essayer de marier le business, puisque j'étais en école de commerce, et ma passion, la musique.
Ouais, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont en école de commerce.
Tout n'est pas perdu.
La lumière existe à la fin du couloir. Mais plus sérieusement, est-ce que en même temps que cette vie en école de commerce et tout, tu produisais déjà des spectacles de manière associative ou tu jouais dans un groupe ou alors pas du tout?
Ouais, je faisais de la musique depuis l'adolescence. Et puis en école de commerce, j'avais mon petit groupe de copains dans ma promo, notamment Yves Barré, qui était batteur d'un groupe de ska-punk qui s'appelait Outrage. Yves Barré, aujourd'hui, est directeur d'une grande salle de spectacle à Rennes qui s'appelle Le Liberté. C'est toujours un très grand ami à moi. Et donc, à l'époque, je produisais, mais je participais au développement de ce groupe. Je les aidais un peu, j'organisais un concert à la cafette de l'école. Voilà, j'étais un petit peu dans le circuit autour de ce groupe-là. Donc oui, c'est effectivement, je baigne là-dedans quand même depuis l'adolescence, on va dire.
Et ce qui est marrant, c'est au tournant des années 2000, en 2001, où ça commence à se préciser, parce que là, ton vrai stage de fin d'études se passe chez ce qui est devenu Augury, qui s'appelait Olympique avant, à Nantes.
Exactement. Je suis pris d'abord sur un stage d'assistant management, et puis très vite, j'ai envie de découvrir plus les métiers du live. Je pars un petit peu en tournée en tant que régisseur, je fais un petit peu l'attaché. Enfin, je suis le stagiaire homme à tout faire. Je touche un petit peu à tout et l'année d'après, à la fin de mon stage, j'ai un peu insisté auprès de Charles Binsman, le patron donc d'Augury aujourd'hui, pour qu'il me propose quelque chose et j'avais envie de me frotter au booking.
Et les bookings, alors tu peux nous rappeler ce que c'est pour les gens qui nous écoutent de temps en temps, mais on parle pas de booking à chaque fois dans Soldat.
Tu as raison, ouais, le booking, alors je sais pas d'où c'est très spécifique, je pense, à notre métier, ce mot-là en tout cas.
Commercial ?
Ouais, c'est le commercial, c'est l'agent qui a la responsabilité du planning de l'artiste, de remplir le planning de l'artiste. Il appelle les salles, les festivals, et il essaye d'enchaîner le jeudi à Strasbourg, le vendredi à Nancy, et le samedi à Besançon. Enfin voilà, en gros, le booker monte chaque semaine de tournée, chaque mois, et toute la tournée de quelques artistes.
Mais t'es modeste aussi en disant ça, parce qu'évidemment, il y a une partie commerciale, vendre des dates, que des SMAC, par exemple, des salles t'en achètent ou prennent le risque. Mais c'est aussi quand même, il y a une vision un peu artistique quand même aussi, parce qu'il s'agit forcément de comprendre de quoi l'artiste est fait pour l'amener dans des salles qui correspondent à son univers.
C'est un poste qui est vraiment assez large. Il y a de l'artistique, il y a du commercial, il y a quelques notions de compta dans les grandes lignes, en tout cas de gestion financière de projet. Oui, c'est assez large. La relation humaine est importante aussi, puisqu'on va parler aux artistes, aux musiciens, aux régisseurs, enfin à tous les gens qui gravitent autour de l'artiste. Donc, c'est effectivement le boulot premier, c'est de remplir le planning avec une notion assez commerciale, mais c'est bien plus large que ça.
Et toi, t'es un fidèle, hein, parce que chez Augury, donc Charles Binsman t'embauche,
oui.
Et tu restes 11 ans.
Oui. Ouais. Il m'a donné ma chance avec donc Alexis HK, mon premier billet vendu, et puis un groupe de rap alternatif un peu à l'époque qui s'appelait La Caution. Et puis très vite, il m'a confié d'autres projets. Il a vu que je mettais beaucoup d'énergie et je me suis lancé vraiment à fond là-dedans et j'ai adoré ça. Donc il m'a donné beaucoup de projets et effectivement, en 11 ans, je ne les ai pas comptés.
Tu as travaillé avec Dominica, j'imagine, par exemple ?
Eh bien, je n'ai pas fait le booking pur de Dominica, ouais. Non, puisqu'on se répartissait, on était 3, 4 bookers, 5 bookers, donc on s'est répartis, mais donc j'ai eu beaucoup d'artistes chez Augury. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé là-dedans, j'ai vraiment adoré ça et ces 11 années sont passées très vite.
Est-ce que quand on est booker, il y a des fois, on a des moments de solitude incroyables, genre on n'arrive pas à vendre les dates,
ça marche horrible.
Pas.
C'est horrible. Non, mais je te jure, c'est horrible. C'est-à-dire que tu parles de Dominica, mais donc dans ces années-là où Philippe Catherine, que je bookais, c'était facile. Ton téléphone, il sonne, les mecs, ils t'écrivent, toutes les salles, les festivals. Mais quand tu vends des projets plus confidentiels, bah, tu appelles une fois, 10 fois, tu appelles 30 mecs, il y en a un qui dit « ouais, peut-être, why not ?» Et les 29 autres, ce sont des vestes. Voilà. Donc, quand tu bosses comme un ouf, que tu as appelé toutes les salles et que tu dois présenter un planning à ton artiste et qu'il y a 13 dates sur 4 mois, bah, tu as les boules, tu mets du temps à lui donner, tu es stressé. Donc, ouais, y a, le booking, c'est génial quand le téléphone sonne. C'est assez violent. Toute proportion gardée, mais c'est assez violent quand on est sur du développement ou sur des artistes difficiles à booker.
Est-ce qu'on fait un peu comme les vendeurs de fiction télé où quand t'achètes Friends, en gros, t'es obligé d'acheter Derrick en même temps et tu fais un package ? Est-ce que ça existe, ça, ou pas ?
En fait, ça n'existe pas... Enfin, ça devient un peu compliqué, la marque, mais ça n'existe pas vraiment.
Ouais.
Par contre, la relation de confiance entre un booker, un producteur et une salle, un festival, ça s'instaure avec les années. Ouais. Et au bout d'un moment, effectivement, c'est plus la confiance, l'échange, les habitudes de travail qui vont faire que oui, on se donne un gros et oui, bien sûr que je vais te prendre un petit. Bon, je schématise.
C'est un peu
parce
comme
que
une maison d'édition, en fait. Quoi. On croit l'émetteur, quoi.
Oui, c'est ça. On croit l'un en l'autre. On se fait confiance et presque on peut se demander des services même par moment. C'est un petit peu exagéré, mais parfois ça peut presque être ça. Appeler une salle en disant « Écoute, je ne sais pas si tu aimes cet artiste-là, mais j'ai besoin d'une date chez toi, j'ai besoin que tu m'aides. On a eu fait par le passé des très belles dates, tu as eu des beaux artistes, des beaux noms, tu as gagné des sous, là j'ai besoin de toi. » Donc voilà, parfois on peut être un petit peu là-dessus. Mais c'est pas, mais il y a pas vraiment de package non plus.
Ouais, je comprends, c'est très très clair. C'est très clair. Si on reprend le fil de ton parcours, tu fais ça pendant 11 ans chez Augury avec une boîte qui était centrale, hein, qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, une super boîte, et qui est chez Fimalac maintenant d'ailleurs, qui n'est plus indépendante. Ça c'est intéressant parce qu'on en parlera aussi après, même s'il continue d'être très très inventif. Et chez toi, en 2012, ça s'arrête et pendant un an, tu es indépendant.
Ouais, j'avais monté une boîte quelques années auparavant sans trop savoir quoi mettre dedans. Et ouais, pendant une petite année, à peine une année, j'ai bossé un petit peu en booker indé, encore un petit peu pour Augury d'ailleurs, pour les visiteurs du soir, enfin pour quelques boîtes de prod parisiennes. Mais j'ai été vite rattrapé.
Rattrapé par ce monsieur qui a construit ce studio, Vincent Frérebeau.
Exactement.
Qui est venu te voir et qui t'a proposé de prendre en main Zouave, c'est ça ?
Alors, si j'ai le temps, je peux te raconter l'anecdote. Parce que elle est belle pour moi. Chez Augury, je bookais Albin de la Simone. Pas depuis le premier album, mais depuis le deuxième album d'Albin. Et quand je suis parti d'Augury, je rentrerai pas trop dans les détails, mais en tout cas, Albin est parti aussi. Moi, j'ai fait mon année d'indépendance. Et pendant cette année, Albin a signé en disque chez Tôt ou Tard. Il n'était pas chez Tôt ou Tard auparavant, il était chez 5-7. Et là, il signe chez Tôt ou Tard. Et un jour, je ne sais plus de quel mois, d'automne, j'ai un coup de fil de la manageuse d'Albin qui me dit « Olivier, t'es toujours booker indé, on vient de signer chez Tôt ou Tard avec Albin, Vincent Frérebeau cherche un booker indé pour booker Albin de la Simone, est-ce qu'on se rencontre ?» La semaine d'après, on se rencontre tous les trois avec la manageuse d'Albin, Vincent et moi. Et là, Vincent me dit « Bah voilà, j'ai Zouave, pas une coquille vide parce qu'il y a Chaka Ponk, mais la Chaka Ponk s'arrête donc... Voilà, mon premier artiste en vrai en production que je signe, c'est donc Albin de la Simone, mais j'ai pas de booker. Est-ce que tu veux faire le booker en attendant que je trouve quelqu'un ? Donc je dis ouais, bien sûr, devant la manageuse. Et le lendemain, je rappelais Vincent pour lui dire j'ai entendu cette phrase en attendant que tu trouves quelqu'un. Est-ce qu'on en parle ? Et on s'est revus, on a discuté, et voilà.
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Alors, on se lance dans les années Zouave, tes années Zouave, Olivier, mais on va commencer un tout petit peu avant ton arrivée, parce que tu l'as dit il y a une seconde. Zouave était né avant toi, et notamment pour Chaka Ponk, parce que Tôt ou Tard avait signé Chaka Ponk, qu'il fallait bien les faire tourner. Vincent Frérebeau se dit, il faut les emmener sur scène, ceux-là.
Ouais, et je crois qu'il avait des difficultés à trouver un producteur pour ce groupe qui, à l'époque, n'était pas très très bien vu. Il n'avait pas le succès d'aujourd'hui non plus, mais en tout cas, n'était pas hyper bien vu de la profession de l'industrie musicale d'une manière générale. Donc, ne trouvant pas vraiment de producteur, il s'est dit bah, « je vais le faire moi-même ». Donc, il a monté Zouave. Le manager de Chaka Ponk est rentré dans Zouave pour, bah voilà, pour faire vivre cette boîte. Et puis voilà, a commencé l'histoire de Zouave grâce à Chaka Ponk, au travers de Chaka Ponk, sur la tournée de 2000... voilà, je vais me tromper, j'étais pas là, mais de 2009 à 2012, je crois.
Bah oui, parce que c'était il y a 15 ans.
Ouais.
Ça devait être à peu près par là. Et du coup, cette tournée était immense, quoi.
C'est la tournée, en tout cas, qui les a vraiment révélés. C'est ouais. La tournée où, voilà, où ils ont fait leur premier Zénith, etc. C'est là que ça a explosé. Et puis, à la fin de l'année 2012, plus exactement tout début de l'année 2013, dernière date de cette tournée pour Chaka Ponk à Bercy, eh bien, après ça, quoi ? Après ça, quoi ?
C'est là que tu rentres en scène.
Ouais.
C'est là que tu rentres en scène. Si
en toute modestie.
Mais bon, enfin, et l'idée, là, c'était quoi ? Avec Albin, c'était sans doute pas de faire des Bercy, quand même, mais c'était de trouver de booker une tournée.
Ouais, y avait quelques groupes, si tu veux, chez Zouave, ouais. Qui étaient ouais. Des groupes plutôt où c'était pas des groupes qu'on avait en production, c'était vraiment du booking. Bon, je sais pas si on va rentrer dans le détail.
Non, mais
de
par
tout
contre,
ça,
ce qui est intéressant, c'est de raconter que historiquement, ouais. Chez Tôt ou Tard, le label, les artistes vendaient parfois beaucoup de disques, faisaient beaucoup de oui. Streaming, mais il y avait d'autres tourneurs, il y avait d'autres producteurs de spectacles.
Ouais.
Finalement. Et donc, les artistes qui étaient très gros chez Tôt ou Tard n'étaient pas en tournée chez Zouave à l'époque.
Mais non, ils étaient en tournée. Pourquoi pas chez Asterios, pourquoi pas chez Augury, chez Unité, enfin chez tous les confrères. Et oui, Vincent s'est dit à un moment, bon, Chaka Ponk, personne n'en veut, je le fais. Voilà. Mais why not ? Peut-être que d'autres seraient aussi bien servis chez Zouave.
Et donc du coup, bah, c'était un peu ta mission, c'était de créer cette boîte et de lui donner du corps en fait.
Voilà. Donc avec des artistes qu'on produirait vraiment. Donc Albin de la Simone a été cette première signature, entre guillemets, qui est toujours chez Zouave aujourd'hui. Et très vite, on a discuté avec Katson Schuiz, qui allait donc signer leur album chez Tôt ou Tard et leur première tournée chez Zouave. Et puis, il y a eu Lisa Leblanc, la Canadienne. Et puis, il y avait Tété, avec qui je travaillais chez Augury, qui m'a suivi dans l'aventure Zouave. Et qui est toujours chez Zouave. Et puis, quelques mois après, Vianney, et puis beaucoup d'autres.
Alors là, Vianney, pour le coup, ça change de dimension.
Oui.
Ou pas.
Ouais, alors bon, il y avait une première tournée de Zénith juste avant mon arrivée, effectivement, avec Chaka Ponk. Mais ça a été un accélérateur pour installer Zouave vraiment dans le paysage des producteurs français, puisque ça a été, pas immédiat, mais quand même assez vite, un très beau succès. Donc oui, on a un petit peu changé de braquet à ce moment-là.
Changé de braquet avec un format qui était assez incroyable, parce que finalement, Vianney, c'était guitare-voix, et ça remplissait des salles de plus en plus grandes, partout, dans toute la France.
Ouais, chaque passage de Vianney dans une petite salle, dans une salle de 400, entraînait 6 mois après une salle de 800, qui entraînait une salle de 1005, et on s'est retrouvés en Zénith, à mettre un premier Zénith à Lille, puis à Paris, puis... Et puis un peu partout, et puis à faire des tournées de Zénith. Au départ, on était plus sur des one-shots de Zénith, et puis d'un coup, on s'est dit, en fait, on peut en faire partout.
T'avais imaginé ça ou pas ?
Particulièrement sur Vianney, ou tu parles de Zouave ?
De Zouave.
J'imaginais, en tout cas, oui, enfin, je l'espérais. Et puis la volonté de Vincent était forte quand même. Il faisait pas ça pour... c'était pas récréatif. Il avait une vraie envie de développer. Il m'a très vite donné les clés, fait confiance. Et là encore, j'avais pas d'autre solution, ne serait-ce que vis-à-vis de lui et puis vis-à-vis de moi, parce que j'avais fait des choix aussi, voilà, de me dire ouais, on y va à fond, on essaye, et on met tout ce qu'on peut pour y arriver.
Mais du coup, la boîte ne fait que grandir, quoi. J'imagine que grossir.
Ouais. Alors en vrai, on modère. Là encore, hein, ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas du tout le cas, parce que ça va avec une philosophie, entre guillemets. Mais on grandit, donc en 15 ans, on a grandi assez doucement. Il y a eu des moments où on aurait pu signer beaucoup, grossir, embaucher plus, mais on a toujours voulu grandir à un rythme contrôlé. Voilà. Donc il y a un aspect, comme chez Tôt ou Tard, je crois, je l'espère, chez Zouave, un aspect un peu... familial, c'est un mot qui est galvaudé, on l'utilise tout le temps, mais en tout cas, y a une ambiance qu'on veut garder, qui est une ambiance un peu artisanale. Voilà, on va plutôt dire ça. Et donc, de signer trop vite, aurait pu nous faire perdre ça, et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite.
Et en plus, vous êtes foncièrement indépendant.
On est complètement indépendant, effectivement. Donc tout ça va de pair, effectivement. On a envie de grandir, on grandit, et c'est super, on s'éclate. Mais voilà, on est des indépendants, on est des artisans, et on est, voilà, enfin tout ça est un petit peu, ça fait un peu niaiseux comme ça, mais c'est au fond ce qu'on est vraiment finalement.
Non, vous êtes discret aussi, parce que c'est enfin, voilà, pour préparer cet épisode, moi j'ai essayé de chercher des interviews, des empreintes de Zouave ou de prise de parole, vous êtes très très discret. Par exemple, vous avez fêté vos 10 ans en 2019, entre vous, et parfois un peu avec la profession, mais vous n'avez pas fait un acte de communication.
Non, pas du tout, effectivement.
Pourquoi ?
En fait, ouais, on est discret, si tu veux, on se le dit même souvent, nous, même en réunion de travail, ou quand on va signer des artistes, l'important, au milieu de tout, c'est l'artiste. Le centre de chacune de nos aventures, c'est l'artiste. Donc, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est vraiment, je m'exprime mal là d'un coup, mais c'est pour dire que nos efforts à nous tous, ils sont là-dessus, ils sont sur le projet artistique d'un gars, d'une fille, qui a du talent
donc
et en qui on
croit. Vous derrière.
Exactement, on est vraiment au service d'eux. Et je crois que même dans nos personnalités, les employés de Zouave et de Tôt ou Tard, on est dans ce truc-là de servir le projet, se dévouer à un projet. Et aucun d'entre nous, on est une petite dizaine maintenant, personne n'a... je sais pas, enfin, nos personnalités sont plus là-dedans aussi, je crois.
Mais par exemple, on va prendre un exemple, tiens, Vincent Delerme. C'est un artiste qui est sur scène. Enfin, quand on ne connaît pas Vincent Delerme et qu'on ne l'a jamais vu sur scène, on imagine que c'est très simple, quoi. Piano, voix, des textes un peu rigolos ou un peu mélancoliques. En fait, sur scène, c'est toujours, sur chaque tournée, incroyablement créatif.
Ouais, c'est une vraie bête de scène.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est un artiste complet et qui maîtrise l'art de la scène d'une manière, effectivement, pas forcément soupçonnée pour les gens qui ne l'ont jamais vu, qui ne le connaissent que par une ou deux chansons ou par sa voix ou par ce qu'il pourrait représenter. Je les invite effectivement à aller le découvrir sur scène parce que c'est vraiment très loin de ce qu'on pourrait imaginer quand on ne s'arrête que à une ou deux chansons de Vincent Delerme. En tout cas, voilà, Vincent est arrivé chez Zouave assez récemment. On a fait deux tournées avec lui. Il était chez un confrère pendant longtemps avant. Mais je suis très très fier et en plus, ouais, on échange très bien avec lui. Il y a voilà, il y a l'alchimie qui.
C'est quoi ? C'est du ping-pong ? C'est rendre possible ce que l'artiste a en tête ?
Ouais, c'est souvent ça. C'est au départ, en tout cas, laisser libre cours aux idées, aux propositions des artistes. Et puis ensuite, il y a des cadres techniques, des cadres financiers qui vont faire qu'on va gommer un petit peu, réduire un peu là, ou au contraire, parfois, pas trop mettre de limites quand on le peut. Mais bon, tout ça, c'est un petit mélange, voilà, de techniques, de financiers, de possible, d'essayer de faire en tout cas que ce soit possible.
Ce qui est marrant, c'est que vous êtes vraiment dans le grand écart quoi, entre du guitare-voix ou du piano-voix et Chaka Pong, qui sont des fous furieux avec des moyens vraisemblables, des écrans, ouais. Des mecs qui... Enfin, c'est marrant, quoi.
Chaka Pong, là, pour le coup, c'est vraiment ma plus grosse tournée de ever, dans le sens où on est 95 sur la route. C'est une machine bien huilée, mais c'est vraiment un très gros morceau avec tous les corps de métier. Enfin, c'est vrai que ça peut être assez opposé à voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Tant dans l'artistique que dans les projets, on va plus marcher au coup de cœur, artistique, humain, au challenge, à l'envie, à la rencontre.
Mais j'ai l'impression que vous avez quand même un savoir-faire chez Zouave, c'est de faire en sorte que vos artistes se cassent la jambe. Parce que...
Ça, c'est pas sympa.
Non, mais François, le chanteur de Chaka Pong, c'est assez fréquent quand même. J'ai l'impression que le mec a un abonnement à la salle d'opération, non ? Enfin, parce qu'il se jette tout le temps de partout.
Non, c'est qu'on a des bêtes de scène. Voilà, on a des bêtes de scène, on fait pas les choses à moitié.
C'est ça. Non, je dis ça parce que pour les gens qui n'auraient pas lu les trucs, vous avez mis récemment Dionysos sur scène et le premier soir, je crois que ça durait moins d'une minute.
C'était une sorte de cauchemar, mais oui, 15 secondes.
Tu peux nous raconter
secondes.
Ça quand même.
Ah ouais, mais c'est pas. Je le vis encore très
mais
mal.
Ça va mieux.
Je l'ai pas encore digéré.
Ça va mieux.
Mais bon, surtout une pensée pour Mathias parce qu'effectivement, on a travaillé sur les répétitions, la création d'un spectacle. C'est des semaines, c'est des mois de boulot. Et donc, on a mis beaucoup d'énergie à ça parce que c'est une toute nouvelle signature pour nous, Dionysos. Donc, on avait à cœur. Quand on connaît pas un groupe et qu'on monte une première fois un show, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas ce que l'autre attend. Enfin, on se découvre aussi. Donc, on a essayé de faire ça bien et on s'est beaucoup investi dans le truc. Et eux aussi, c'était vraiment super. Et on arrive à cette. La résidence a été difficile. Mathias était déjà un petit peu malade et tout. Donc, déjà,
la résidence, c'est là où on monte le spectacle.
Pardon, effectivement. Les quelques jours où on s'enferme dans une salle pour vraiment faire les lumières, quel titre en premier, quel titre. Bon, voilà. Et premier concert. Anime, au bout de 15 secondes, on le connaît, il saute, il est plein d'énergie, il met le pied sur un retour qui n'était pas très stable, il bascule et il se fait une double fracture au bout de 15 secondes de musique. C'était vraiment très dur à vivre puisque on n'a pas commencé quoi.
Mais bon, pour, c'est une histoire qui finit bien parce que je crois qu'il sait jouer sur une chaise ou un truc et puis la date est recalée.
Ouais, en fait, on a quasiment rien annulé. On a annulé la première semaine, les trois premières dates qu'on a reportées bien sûr. On avait une semaine de break. Cette semaine de break, Mathias Soisson, je vais te dire, une petite anecdote, mais la nuit où il s'est fait mal, enfin le soir où il s'est fait mal, à 2h30 du mat, il n'était pas encore opéré, qu'il me laissait un vocal pour me dire on va trouver un truc, Olivier, on va réfléchir à une chaise roulante avec des éléments, un truc à la Boris Vian, je ne sais pas quoi, on va trouver un truc pour que je ne veux pas annuler. Allez, sur ce message, Marc, il me dit bon, pour demain, c'est peut-être un peu chaud, mais après-demain, on maintient la date.
C'est génial.
Et dans un sens, je me dis, mais il est fou. Et en même temps, je me dis, il est génial. C'est super, cette volonté. Et effectivement, on n'a quasiment rien annulé puisqu'on est reparti sur la route 10-15 jours après.
Sold Out.
Sold Out, le podcast de Delight.
Bon, on a parlé pendant le milieu de cet épisode de quelques moments clés de ces 15 premières années. Les 15 ans, c'est quand exactement déjà ?
C'est facile, Marc. 15 ans, 15 mai.
15 mai, et c'est à peu près dans un mois, puisque cet épisode est diffusé mi-avril. Donc, c'est dans un mois, les 15 ans de Zouav.
À la Cigale.
À la Cigale. C'est ouvert au public, hein, cette fois.
Ouais, c'est ouvert au public. Effectivement, on a ouvert plusieurs centaines de places. Pas toute la salle, on a invité beaucoup, beaucoup de gens, tous les partenaires, les gens avec qui on travaille, les techniciens, les musiciens, mais aussi les prestataires, les fournisseurs. Et on a ouvert plusieurs centaines de places à la vente.
Il va se passer quoi ?
Alors, j'aimerais bien le savoir.
Je sais pas, en fait. C'est ça le live.
Il va se passer, en tout cas.
Est-ce que des gens se casseront des jambes en direct ?
Non, s'il te plaît, Marc. Ouais. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait tous les artistes Zouaves, tous, normalement, tous, seront là, et qu'il n'y aura personne d'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas de groupe de musiciens, je n'ai pas un backing band, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont jouer seuls, accompagnés, mais accompagnés de leurs copains, quoi. C'est-à-dire, donc je ne sais pas encore, mais Charlie Winston va sans doute faire du clavier pour accompagner, je dis n'importe quoi, hein, Mentissa. Albin de la Simone sera peut-être à la basse, derrière son ami Mathieu Bogart, et peut-être que les Cats and Trees seront le groupe de Alice on the Roof. Voilà, j'ai rendez-vous. Donc le temps n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, j'ai rendez-vous demain avec Albin de la Simone, qui sera le directeur musical de cette soirée, pour commencer à orchestrer un petit peu tout ça.
Albin, c'est vraiment le fil rouge de ta carrière.
En vrai, c'est dingue. Hein. Ouais, Albin, c'est fou, hein. Albin et Tété sont les deux artistes avec qui je travaille depuis plus de 20 ans.
Ouais, c'est beau ça.
Ouais, ouais. Ouais.
C'est génial. Bon, alors on essaie de se projeter alors vers les 15 prochaines années.
Allez.
Une fois que cette soirée-là, dans un mois, sera passée. Et puis, il y a des gens qui vont nous écouter en 2025, en 2026.
C'est évident.
C'est évident. Des millions de gens, à peu près. Et du coup, voilà. Comment, en vrai, comment une boîte de production de spectacles indépendante comme ça se projette ? Parce qu'il y a plein de gens qui parlent de l'inflation, de l'augmentation des cachets, de la concentration, et puis de plein d'autres choses. Toi, tu sens ça comment ?
Alors, écoute, je ne sais pas si ça va durer très longtemps, parce que pour le coup, je ne me projette pas beaucoup.
Et tu vis au jour le jour.
Hein ?
Tu vis au jour le jour.
Ouais, alors forcément, on regarde un petit peu, mais j'avoue que je ne regarde pas à 15 ans. C'est vrai que nos métiers, notre métier a évolué, mais finalement, bon, sans parler de l'épisode catastrophique de l'année 20 et 21, il s'est reconstruit. Et depuis l'année dernière, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, oui, il y a des changements, il y a beaucoup de concentration. On en parlait tout à l'heure, nous, l'indépendance, c'est un truc qui est important pour nous et qui, pour l'instant, tient et j'espère va tenir pendant les années dont tu parles là. Mais il n'y a rien de certain. En tout cas, oui, pour l'instant, notre maison, elle a grandi. Comme on s'est dit tout à l'heure, elle a grandi progressivement et je vois plutôt les années à venir comme ça. C'est-à-dire... essayer de garder notre identité tout en restant dans la compète, entre guillemets, en tout cas, tout en restant dans le game, de être présent, réussir à signer des artistes qui sont très convoités, qui sont très concurrentiels, tout en gardant notre identité.
Ça me fait un peu penser à ce qui se passe, vous, votre relation avec vos artistes, à ce qui s'est passé avec Orelsan et Asterios, par exemple. Parce que Orelsan aurait pu aller dans des énormes boîtes de tournée mondiale ou accepter un gros chèque. Il est resté très fidèle à Asterios, Olivier Poubelle, qui le faisait tourner au début. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez à faire ça sans même y réfléchir, parce que c'est humain, c'est familial, ce que tu disais tout à l'heure ici.
Ouais, je crois que j'espère que c'est notre identité, j'espère que c'est comme ça qu'on parle de nous, en tout cas.
Ouais.
Parce que c'est, je crois, ce qu'on est.
Et c'est donc, comme ça que tu te projettes aussi.
Ouais, c'est on est très donc j'ai 25 artistes à peu près. Nous avons 25 artistes à peu près chez Zouave et on est une dizaine. C'est-à-dire que on essaye d'être vraiment présent. avec chacun d'entre eux. On va beaucoup sur les dates, on essaye d'être réactif à tout. Et je crois pas, j'espère pas, en tout cas, il n'y a aucun artiste qui est mis de côté. On est vraiment, si on est là, on est vraiment là. Donc, j'ai perdu le fil, mais en tout cas, pour se dire que peut-être que une de nos forces, ça serait voilà, de considérer chacun et d'être vraiment investi et impliqué sur chacun de nos projets à fond.
Moi, j'ai une question sur les festivals, parce qu'on sent que cette année, les festivals ont parfois du mal à remplir, cette année en 2024. Et il y a plein de patrons de festivals, notamment de festivals indépendants, qui disent « c'est compliqué, les cachets augmentent, c'est compliqué ». Est-ce que tu penses que ce modèle, parce que vous, l'été, vous vendez beaucoup d'artistes à des festivals, en fait.
Oui, bien sûr.
Ouais. Est-ce que ça, c'est un élément de préoccupation, par exemple, le fait qu'il y ait une grosse diversité encore de festivals en France qui soient capables de faire des tournées d'été ?
Alors, on est concerné, en fait, peut-être par déni, je ne sais pas, mais je ne me sens pas trop concerné. Je vais te dire pourquoi.
Ah oui.
Chez Zouave, on n'a pas d'artistes, on n'a que des artistes français ou une artiste canadienne. Enfin, je ne suis pas agent d'artistes internationaux. Et l'inflation des cachets, pour majorité, viennent de là. Viennent quand même des artistes américains, anglais. C'est un petit peu vrai en France. Mais le ratio n'a rien à voir avec les artistes inter, qui eux font x2, x3, x4. Nous, on fait plus 15, plus 20%. Mais cette augmentation, elle existe, elle est réelle. Et donc, c'est un problème pour les festivals. Mais c'est pas 20% de gras que je vais faire en plus. C'est les prestataires ont augmenté. A augmenté. Les bus, les machins, tout coûte plus cher. Donc, oui, il y a une petite répercussion, sur les prix de vente, sur les festivals et même un peu sur les salles, mais sur les festivals d'été. Par contre, la crise, entre guillemets, pour les festivals.
À ton avis, elle vient plutôt de l'international.
Je crois. Alors ouais. Après, j'ai pas de contradicteur dans ce studio.
Mais on a reçu, ça va dans le sens de. On a reçu dans un des tout premiers épisodes de cette saison le programmateur et le boss du Festival d'été de Québec qui disait que la raison d'être même d'un festival, c'est de payer 50% de plus que le prix normal en tournée et qu'aujourd'hui, ça allait plus vers 100% et que c'était ça la raison d'être d'un festival. Ouais. Donc eux, ils assument vachement ça. Il a du mal, lui, à programmer. Hein. Et du coup, ça va complètement dans ce que tu dis. Et c'est beaucoup avec des cachets de gens qui viennent d'ailleurs.
Hein. Ouais. On a notre part, mais elle est assez faible comparativement aux inter.
Mais imagine, pour prolonger un petit peu le trait, que le fait de vendre un peu plus cher en festival, 15-20% plus cher, c'est aussi ce qui permet de financer une tournée, de prendre des risques sur une tournée, parce qu'on sait qu'on va plutôt se refaire là. Enfin, ça fait partie de l'économie globale du projet.
Évidemment. Alors, c'est pas vrai tout le temps, mais très souvent, c'est le cas. Quand on développe des artistes et qu'on passe dans des petites salles, ou des moyennes salles, ces salles-là n'ont pas les moyens de nos coûts de plateau. Nos coûts de plateau, c'est le total du camion, du camion plus les salaires, plus le machin. Ça coûte 5 000 €, 10 000 €. 10 000 € dans une petite salle de 300 places ou de 500 places, ça ne passe pas, c'est pas possible. Donc effectivement, notre économie de tournée, elle tient sur au moins une saison, voire une saison et demie, avec là-dedans des petites salles, des plus grandes salles, des festivals, des centres culturels, selon les typologies de projets. Et ça tient à tout ça. Donc oui, les festivals en général participent à l'équilibre de nos tournées.
C'est comme ça qu'on peut prendre des risques.
Et voilà.
Si on continue à réfléchir un peu à la suite, est-ce qu'aujourd'hui, vous interrogez ici, chez Zouave ou chez Totar aussi, à la possibilité d'acquérir une salle de spectacle ? Parce qu'on sait que parfois, une salle, on assimile ça à un média. Vous produisez des contenus. Et voilà. Est-ce que c'est sans du tout parler de trucs confidentiels, hein, mais plus en termes de vision, quoi.
Ça fait plusieurs années qu'avec Vincent, on en parle, qu'on rencontre des festivals, qu'on discute de projets. Mais notre identité dont on a parlé, notre état d'esprit, fait qu'on ne va pas se jeter sur telle ou telle proposition. Alors, je ne dis pas qu'on en a des milliards, mais tous les ans, je discute avec... J'ai une ou deux propositions de participation, de recréation, de réécriture. Mais on cherche avec Vincent Frérebeau un lien d'identité, c'est-à-dire de où le lieu, où le type de programmation, où le projet va faire que oui, on a à peu près le même chemin, à peu près la même route, on va s'y retrouver. Juste avoir des parts dans un festival, je vais dire n'importe quoi, à Mimizan, alors que je ne suis allé qu'une fois en vacances à Mimizan, tu vois. Non, mais il y aurait pas vraiment un sens à notre histoire entrepreneuriale.
Mais c'est vachement intéressant ça, parce que quand les gens parlent d'intégration verticale, c'est plutôt d'un point de vue économique, en disant en gros la prod c'est super risqué et voilà, et une salle c'est super safe comme modèle. Et du coup on va acquérir une salle parce que ça va diversifier le risque et que ça va être moins risqué. C'est marrant parce que tu réponds pas du tout comme ça à la question. Tu réponds en termes d'identité et d'empreinte.
On adorerait allier les deux, c'est-à-dire que business pour business. Why not? Mais c'est un peu, c'est peut-être qu'on s'y retrouve un petit peu moins. Si on arrivait à faire business plus identité, plus kiff et plus histoire, avoir du sens à ce qu'on fait, ça serait génial. Et c'est pour ça qu'on n'a rien, puisque tu vois, ça fait depuis, je crois, 2019, je crois qu'on se dit ça serait bien si. Et on a eu des discussions qui ont été très avancées parfois, mais pour l'instant, on n'a pas eu le. On n'a pas signé.
Vous rachetez pas encore la sphère de Las Vegas.
Non.
C'est pas encore pour maintenant. Bon, alors, question rituelle de fin de sold out. Tu nous parlais tout à l'heure, toi, de quand t'as commencé chez Augury en disant j'étais un peu l'homme à tout faire. J'étais le couteau suisse, plus précisément. c'est ça que tu disais.
Non, je dis homme à tout faire. Mais
dit homme à tout faire.
Tu as raison, couteau suisse, c'est pas vrai.
Voilà. Est-ce que, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une jeune personne qui. Un petit Olivier Touati qui aurait envie de rentrer dans le spectacle vivant, et notamment chez Zouave. Est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être la 11e personne qui bosse ici?
Je crois qu'il faut montrer qu'on a envie. On reçoit des CV, des lettres de motivation. Dès que nous, on a une ouverture de poste, je reçois des CV de gens qui soit viennent de tout à fait autre chose, why not, hein, mais surtout je dirais aux jeunes, faites des stages, engagez-vous, soyez bénévole de tel et tel festival, soyez, en fait, montrez qu'on a vraiment envie, parce que c'est un métier qui fait un peu rêver, pour ceux qui le connaissent en tout cas, puisque c'est un peu confidentiel, mais en même temps ceux qui veulent bosser dans la musique, c'est vraiment, ça fait souvent rêver, et je comprends, même si tout n'est pas rose non plus, mais bon. Mais pour ça, nous, on reçoit 1000 trucs, il faut 1000 CV, 1000 propositions. Moi, je suis toujours assez sensible de voir que le gars, la fille, a 22 ans, elle est déjà bénévole dans 3 festivals, qu'elle a fait déjà 2 stages, que ses boulots d'été, c'est en rapport, qu'elle manage un petit groupe. Que... Bon, ça, moi, personnellement, je suis assez sensible à ça. Je me dis, OK, tu fais les études que tu fais. Mais finalement, l'important, c'est que tu as grave envie et tu te donnes les moyens de savoir un petit peu ce qu'on fait et pourquoi, qui fait quoi dans notre industrie. Donc moi, je suis plutôt sensible à ça et je les encouragerais donc à arriver dans le monde professionnel avec déjà un petit peu de bagage.
C'est un super bon conseil. C'est hyper pragmatique. On donnera ton mail dans le prochain numéro de Sold Out.
S'il te plaît.
D'accord. Merci beaucoup, Olivier.
Bah, grand plaisir, Marc.
De nous avoir reçus chez toi. À bientôt.
Avec plaisir.
Alors, on retrouve les Nuits Zouave le 15 mai à La Cigale pour les 15 ans de Zouave. Et comme je vous l'avais promis au tout début de l'épisode, quelques mots encore sur One, mon nouveau podcast qui sort le 23 avril 2024. Plutôt que de vous le raconter là comme ça en long, en large, en travers, je vous fais écouter la bande-annonce qu'on a réalisée pour les plateformes de podcast. Comme ça, vous allez tout comprendre. J'espère qu'on vous trouvera très nombreux dans One mardi prochain et dans Sold Out dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Allez, ciao.
C'est sacré, les instruments, parce que c'est, on sent que c'est tellement personnel qu'on n'ose pas trop y toucher, c'est comme un doudou. Hein.
Ces doudous dont parle M, Mathieu Chédid, me fascinent. Je m'appelle Marc Gonnet, je suis fou de joie de vous présenter One. Mon nouveau podcast. J'ai remarqué qu'il y avait dans la musique quelqu'un de très important. Quelqu'un qui était toujours là, mais dans l'ombre. Quelqu'un dont on ne parlait jamais. Parce que quelqu'un n'est pas une personne, c'est un instrument. Ou plutôt, c'est l'instrument fétiche, l'instrument favori d'un artiste. Un instrument tellement unique que j'ai appelé ce podcast One.
One, le podcast. Un artiste, un instrument.
Et dans One, j'enquête. Je pars en reportage sur cette relation entre un artiste et son instrument fétiche, comme celle qui unit Gail Ann Dorsey et sa basse Marilyn.
It's my favorite instrument. And if I had to get rid of every instrument I own, that this would be the one that I would keep.
One, le podcast vous raconte cette histoire profondément humaine entre un musicien et son instrument, entre une artiste et ses étranges machines faites de bois, de métal et de cordes.
Ensemble, on rencontrera aussi Gaëtan Roussel et sa guitare brune.
Elle a une singularité et elle est très âgée.
Gaëtan, il a une relation extrêmement intime avec sa guitare. Très, je dirais pas discret, Je dirais plutôt secrète, c'est une relation très secrète.
Ou Vladimir Kosma, et vous verrez bien. Je vous emmène dans l'intimité de vos artistes favoris.
One, le podcast.
J'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Ouais, c'est mon trésor de guerre, si je peux dire ça.
Rendez-vous le 23 avril sur toutes les plateformes de streaming et sur onelepodcast.fr.